La mêlée de l'info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric Dupri. La mêlée de l'info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Radio Présence, ravi de vous retrouver pour cette mêlée de l'info et nos débats consacrés à l'actualité nationale. Trois invités comme d'habitude dans cette émission. Je reçois aujourd'hui et je salue Guillaume Agulot, référent Occitanie du Printemps Républicain. Je salue aussi Guy Chapouillet, cinéaste, auteur de documentaires sur la paysannerie française, fondateur de l'École Nationale Supérieure de l'Audiovisuel à Toulouse. Et je salue enfin Ulrich Terrier, référent Gers des Jeunes En Marche, membre du Conseil National du Parti Renaissance. Bienvenue également à vous trois, merci d'avoir accepté de débattre ensemble. Depuis une semaine, l'actualité nationale est dominée par la nouvelle crise à laquelle le monde agricole est confronté en raison de l'épizootie de dermatose nodulaire contagieuse qui a touché, comme vous le savez, plusieurs élevages bovins en France. Et notamment dans notre région, lundi, la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, était en visite à Toulouse et y a défendu sa gestion de l'épidémie, très critiquée par une grande partie du monde agricole et de la classe politique. Selon elle, la situation serait désormais sous contrôle dans l'ensemble du territoire national. La ministre a rappelé les trois piliers de la stratégie sanitaire mise en œuvre, l'abattage systématique dès qu'un cas est détecté, la vaccination et la restriction de mouvement. Dans cette optique, Anne Genevard a précisé qu'une vaste campagne de vaccination du cheptel français aurait lieu dans les semaines à venir. En dépit de ces annonces, la colère des agriculteurs ne retombe pas. Ils ont indiqué qu'ils allaient maintenir les blocages des routes et même les renforcer. Vous avez suivi tous les trois l'évolution de cette crise. Est-ce que la décision d'abattre toutes les bêtes d'un élevage dont l'une est atteinte de la DNC vous semble légitime, même si elle est terrible bien sûr pour l'éleveur concerné? Et que pensez-vous de la façon dont le gouvernement a géré la situation jusqu'alors? C'est Guillaume Agulot qui va commencer et répondre le premier.
Bonsoir et merci beaucoup pour votre invitation. Alors, je vais peut-être, si vous me permettez, reformuler votre question. Je pense que c'est une stratégie que porte le gouvernement, c'est-à-dire que véhicule le gouvernement et qu'annonce le gouvernement. Mais je ne suis pas sûr que ce soit la stratégie du gouvernement. Je m'explique. Le gouvernement est en fait en train de relayer ce que les vétérinaires, le monde scientifique spécialiste de la gestion zoologique en France, dit qu'il faut faire. Et là-dessus, il y a un consensus des autorités sanitaires vétérinaires dans notre pays sur cette stratégie-là et qu'ils ont présentée et que le gouvernement suit. Donc ça veut dire que quand une autorité sanitaire dit quelque chose sur un sujet sur lequel cette autorité a compétence, j'en suis même à me demander, mais pardon, hein, comment se fait-il que nous en soyons encore à débattre de la pertinence ? Parce que quels que soient nos ressentis, y compris humains, face à la détresse de ces éleveurs, évidemment, à qui on va dire qu'il faut abattre tous leurs troupeaux. Et on sait bien tout ce qu'il s'agit, pas simplement, pas uniquement, pas exclusivement, d'un outil de travail. Le lien affectif, le lien entre un paysan, un agriculteur et ses bêtes, c'est quelque chose, c'est sa vie, c'est viscéral. Et on comprend parfaitement cette émotion-là. Et il faut l'entendre, il faut qu'elle puisse aussi s'exprimer, qu'elle soit entendue et qu'il reçoive aussi là-dessus notre soutien. Mais quand on a une autorité sanitaire qui dit « la solution, c'est celle-là », pas une des solutions parmi d'autres. La solution, si on veut éviter l'aggravation, c'est celle-là, alors à ce moment-là, on fait. Il sera toujours temps, plus tard, ultérieurement, effectivement, de débattre. Je n'ai pas pour habitude, hein, vous le savez ici, de donner des blancs-seings au gouvernement dans différents domaines. Là, pour une fois, je ne comprends pas cette levée de bouclier. Je peux parfaitement la comprendre de la part des paysans et des représentants du monde agricole, parce qu'effectivement, on est peut-être sur autre chose. Mais alors, tous les débats de ces auto-spécialistes qui, en 4 minutes, en scrollant sur leur téléphone, estiment être plus intelligents que des vétérinaires qui ont fait 8 ou 10 ans d'études, certainement pour arriver à ce niveau-là, moi, c'est quelque chose que j'ai de plus en plus de mal à comprendre et à accepter. On l'a vécu, on l'a subi. Sur le Covid, évidemment, on continue encore aujourd'hui et sans aucune critique, évidemment, pour votre antenne. Je sais bien que tout le monde doit avoir la parole, mais je trouve que peut-être, sans trop de recul, on laisse aussi les médias, laisse un peu trop la parole à ces personnes qui jouent sur l'émotion en plus. Et on sait très bien que derrière, ils ont des arrière-pensées qui sont jamais neutres, et que ce soit des représentants syndicaux autoproclamés ou des représentants politiques qui vont nous expliquer d'une chose évidemment qu'ils connaissent très très bien, tout ça parce qu'ils sont allés 3 heures dans l'année au salon de l'agriculture alors qu'ils ne sont pas capables de savoir simplement comment sont produits, dans quelles conditions sont produits les produits qu'ils peuvent éventuellement manger.
Alors, première intervention de Guillaume Agulot, très clair et je dirais aussi très tranché. Guy Chapouillet, est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde que Guillaume Agulot? Est-ce que vous pensez qu'il n'y avait pas d'autre façon de traiter cet épisode de DNC?
C'est une situation grave. C'est une situation complexe. Je crois que c'est très difficile de dire oui ou de dire non. Je ne suis pas veto, je n'ai pas fait d'études dans ce domaine-là. C'est vrai qu'on peut s'appuyer sur les scientifiques peuvent se tromper. Je crois que ce que les paysans regrettent, et je l'ai constaté sur les barrages en allant les voir, je l'ai constaté en écoutant à la radio un de mes amis paysans, qui d'ailleurs dans mon dernier film, qui fait pas mal d'interventions en ce moment du côté des Quimperlés, c'est la méthode. Il y a un moment qu'elle est là, cette maladie. Et d'ailleurs, comme par hasard, les vaccins arrivent par centaines de milliers. On aurait pu prévoir, en tout cas, agir plus vite et agir en concertation. Il faut parler aux paysans, il ne faut pas parler à la fédération, à la direction de la fédération. Ce n'est pas une leçon que je donne au gouvernement, mais je me pose la question. On parlait tout à l'heure de démocratie, de relations, d'échanges, de partage vrai. Alors on a besoin de vérité. Il faut être courageux. Il ne peut pas y avoir de vérité. On ne peut pas attendre la vérité si on n'a pas de courage. Le courage, c'est de parler très vite aux paysans. Parce que c'est vrai, tout à l'heure, il a eu raison, beaucoup se saisissent de cette fièvre pour la faire monter de plus en plus. Il y a même des vidéos qui sont construites et qui sont des trucages. Ce n'est pas l'intelligence artificielle, c'est une intelligence ordinaire qui essaie de manipuler un petit peu la fièvre et le malheur. Moi, personnellement, c'est ce que je reproche et ce que je conseille désormais. Parce que pour la paysannerie, je viens de la terre, mes grands-parents maternels étaient paysans, mon oncle était ouvrier agricole, les cousins étaient fermiers. Et j'ai connu à la fois le moment du partage, le moment des fêtes, et puis de la polyculture, on est passé à la spécialité et au conseil. On leur a dit de faire ce qu'il fallait faire. Ils l'ont fait, ils se sont plantés, parce qu'on les a plantés. Et donc, j'ai connu ce drame. Et les paysans en ont un petit peu marre à un moment donné. Il y a toujours manipulé de cette manière-là. Et on intervient avec le bâton, et ça, il faut arrêter. Moi, j'ai en mémoire 1358, j'étais pas né, n'est-ce pas? Mais c'est la jacquerie, la plus grande des jacqueries qui ait existé en France, qui a fait des centaines de milliers de morts. Les chroniqueurs disent qu'il y avait 10-20 cm de sang qui colorait la terre. Parce que les paysans se sont révoltés, ils en avaient marre, des interactions à la fois des Anglais, c'était un garde tentant, des Français, des bandes organisées. Alors quand il fallait nourrir pendant la guerre, ils étaient payés, mais lorsqu'il n'y avait plus la guerre, on tombait dessus et puis on n'y comptait plus. Je parlerai de Virgile. Et Virgile aussi disait très simplement, ben oui, que voulez-vous, les paysans amènent de quoi manger en ville. Mais l'ingratitude citadine est terrible, parce que lorsqu'ils rentrent le soir, eh bien l'argent, leur argent, n'étirait pas leurs bras. C'est-à-dire, ça ne pesait rien du tout. Depuis toujours, il y a cette espèce de pression sur le paysan. On le presse, on le pressurise, on dit « se démerdera toujours ». Non, le paysan, surtout celui qui est spécialisé, à qui on a demandé de faire des vaches. On va dire « oh, il n'avait qu'à pas le faire ». Non, non, ça a été très dirigé avec les conseillers agricoles. Avec... Regardez ce qu'il y a autour d'un paysan ou d'une famille de paysans. Posez-vous la question, combien de personnes travaillent autour d'une famille de paysans? C'est considérable. Et au fur et à mesure que vous éliminez ces paysans, vous éliminez aussi la vie rurale. Donc, le politique doit se soucier aujourd'hui de ce qu'il faut faire, non pas pendant, mais avant. Avant, c'est un plan Marshall, ou en tout cas quelque chose d'approchant, pour donner à la paysannerie française notre visage dynamique, souriant et partageux, et bien évidemment visant la souveraineté alimentaire. C'est avant qu'il faut agir, pas pendant. Pendant, il faut essayer, bien sûr. Tout le monde a cette mission-là, d'essayer. Et quand je vois sur les barrages, les gens qui sont de tous bords politiques, de toutes tendances syndicales, d'un seul coup vivre une fraternité qu'on peut dire fragile, mais qui est réelle, alors les politiques, allez-y, soyez fraternels aussi.
Oui, alors il faudra qu'on en parle de cet aspect. Effectivement, on voit des gens qui appartiennent à des syndicats agricoles a priori opposés, qui en ce moment s'unissent pour bloquer les routes et donc pour répondre, si on peut dire, à la manière dont le gouvernement gère cette situation, cette crise très compliquée. Ulrich Terrier, bon, je l'ai dit, hein, vous êtes référent Gers des Jeunes En Marche, vous êtes membre du parti Renaissance. Est-ce que vous soutenez complètement la manière dont le gouvernement gère cette crise?
Alors déjà, bonsoir. Je suis relativement d'accord avec ce qui a été dit par les personnes autour de moi jusqu'à présent. On le sait, cette crise est dramatique pour les agriculteurs, pour leurs familles, pour le monde rural. Aujourd'hui, la crise qui a lieu, c'est une crise de fond, une crise qui dépasse largement cette maladie de la DNC, puisqu'en fait, les agriculteurs sont confrontés à de multiples crises depuis des années, que ce soit les viticulteurs avec les grêles, que ce soit les éleveurs avec les maladies, ou même la concurrence étrangère, que ce soit les céréaliers aussi avec des prix très volatiles, avec aussi l'environnement qui s'abat sur les cultures au moment où les récoltes devraient être plutôt bonnes. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui c'est un ras-le-bol aussi de tout ça, de toute cette labeur qui est dépensée par les agriculteurs, parce que ce sont des gens courageux, des gens qui se lèvent tous les matins, qui ne prennent pas de vacances, qui sont vraiment à la tâche. Et je veux encore leur affirmer mon soutien et les saluer, parce que c'est grâce à eux qu'on mange, et ça, il ne faut pas l'oublier. Ensuite, plus précisément sur cette décision d'abattage, je sais qu'elle est effectivement douloureuse pour les agriculteurs, parce que quelqu'un qui, comme je le disais, est tous les jours devant ses vaches à les nourrir, à les voir, c'est très très difficile.
Il faut savoir que certains les appellent toutes par leur ils ont tout un nom pour lui.
Hein, exactement. Donc,
voilà. Alors, c'est pas un animal de compagnie quand même, évidemment, mais il y a un lien très fort. Hein.
Exactement. Et puis, en étant moi-même gersois, je peux mesurer tous les jours cet attachement au monde rural et aux élevages. Donc je tiens quand même à dire que l'abattage aujourd'hui total, même si elle est douloureuse, comme je viens de le dire, sur le plan sanitaire, est légitime, puisque la dermatose nodulaire est très contagieuse, est une maladie qui est transmissible par les insectes, par les moucherons, par les mouches, par tout un tas de choses.
Temps, oui,
voilà.
Oui.
Et donc aujourd'hui, comme on n'a pas la possibilité d'avoir des bâtiments hermétiques où rien ne passerait pour pouvoir confiner les vaches, comme d'ailleurs c'était fait pendant le Covid, on est obligé d'en arriver là pour éviter une propagation pardon, très importante. Et puis ce triptyque qu'a annoncé la ministre de l'Agriculture, soutenu justement par beaucoup de scientifiques, sur l'abattage des foyers, sur la vaccination et sur la restriction des mouvements, commence à porter ses fruits, puisque les chiffres le montrent. On a environ 3300 bovins qui ont été abattus sur un cheptel de 16 millions, soit 0,02%. Et les 113 foyers qui ont été détectés sont aujourd'hui éteints, à l'heure actuelle où on nous parle, en espérant que ça le reste. Donc, en revanche, là où je suis d'accord avec le syndicat des jeunes agriculteurs, c'est que la méthode n'a peut-être pas été suffisamment expliquée et proche aussi des agriculteurs. Puisque aujourd'hui, on a eu de suite des personnes qui ont contesté, et j'ai envie de dire que aussi leur contestation pouvait être légitime. Mais cela est arrivé parce que le gouvernement, et notamment la ministre de l'Agriculture, il faut le reconnaître, a tardé un petit peu à agir.
C'est ce que disait Guy Chapouillon, voilà, on pensait qu'il y a un problème d'anticipation, voilà, quand même.
Un petit problème d'anticipation,
de rapidité, effectivement, à mettre en place
même les, si cette maladie, on la connaît maintenant depuis quelques mois et même quelques années pour l'Afrique. Elle est arrivée en Savoie, puis ensuite on a eu des foyers dans le sud-ouest. Donc voilà, je pense que ce triptyque aujourd'hui a pu être démontré dans son efficacité et qu'il faut vraiment continuer dans cette voie pour arriver à stopper cette hémorragie et qu'on puisse retrouver de la sérénité pour nos éleveurs.
Alors Guillaume Agulot, vous disiez qu'il y avait des gens qui avaient un peu profité de cette crise pour jeter de l'huile sur le feu. Il y a quelque chose qui a beaucoup choqué, et ça ce sont les images qu'on a pu voir dans les médias dont vous parliez, c'est l'ampleur des moyens qui ont été déployés en force de l'ordre, que ce soit les effectifs ou les véhicules, là, ces fameux centaures, par le gouvernement pour contenir les éleveurs en colère et permettre l'abattage de ces 200 vaches dans l'Ariège notamment. Ça a beaucoup choqué dans l'opinion publique, et on sait que l'opinion publique aujourd'hui est plutôt encline à soutenir les agriculteurs dans leur combat. Est-ce que vous avez trouvé également que c'était disproportionné et choquant, ce dispositif, ou est-ce que c'était justifié parce qu'il y avait l'impératif à agir rapidement ?
Malheureusement, ça vient d'être rappelé, hein, ce sont des atermoiements et des retards à l'allumage qui ont de fait rendu ce déploiement indispensable pour pouvoir inévitable, c'est le bon terme, pour pouvoir permettre la préconisation vétérinaire à ce niveau-là. Et effectivement, alors là, je rejoins totalement ce qui a été dit, c'est que si la méthode est la bonne, la forme, le fond, hein, si vous voulez, la forme, par contre. J'ai l'impression qu'on est face à un gouvernement qui continue crise après crise, problème après problème, à ne jamais vouloir apprendre de ses erreurs. C'est même pas à ne jamais apprendre, c'est à ne jamais vouloir apprendre de ses erreurs. C'est-à-dire que systématiquement, on intervient quand il n'y a plus d'autres moyens de le faire, après avoir essayé toutes les choses, alors que dès le début, des voix suffisamment légitimes à pouvoir le faire disent « c'est comme ça qu'il faut faire, et voilà comment le faire ». Ben je crois qu'on a là, encore une fois, une énième démonstration du fameux « en même temps », qui est en fait la stratégie de « je ne décide pas ». À un moment, quand on est dans l'action, quand on prétend être dans l'action publique et dans l'action politique, ça veut dire qu'il faut décider. Décider, ça ne veut pas dire imposer unilatéralement. Décider, ça veut dire aussi expliquer.
C'est ce que disait Ulrich Thierry. Exactement. Il y a peut-être eu un défaut d'explication.
Ah, il y a eu plus qu'un défaut d'explication. Il y a eu un défaut déjà de prise de contact, tout simplement. Avec qui faut-il aller parler de ces choses-là? Mais d'abord avec les éleveurs
les premiers
qui sont concernés.
Les premiers concernés.
Les premiers, bien sûr.
Mais comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu de contact avec les services? Il y a des services vétérinaires dans tous les départements. Comment se fait-il que les préfets n'aient pas envoyé des missions d'explication des services vétérinaires une fois que la stratégie a été faite, ne serait-ce qu'en préventif, puisque, ça a été rappelé, on a eu un foyer large d'épidémie qui a été circonscrit en Savoie et Haute-Savoie, c'était au printemps dernier, où il y a pratiquement un an, et on a eu un autre foyer au mois de juin dans les Pyrénées-Orientales.
Oui.
Les deux ont été circonscrits par l'application de cette méthode. Ben, comment se fait-il qu'on n'ait pas, dans la foulée, pourquoi les préfets n'ont pas dit à leur service vétérinaire, vous allez expliquer, dire ce qui va se passer si jamais ça arrive. Et cette volonté systématique de ne jamais se mettre qui que ce soit à dos dans un sens ou dans l'autre, etc., arrive finalement à la pire, c'est la pire des stratégies celle-là, parce que c'est celle qui arrive mécaniquement à se mettre tout le monde à dos.
Qui évidemment est extrêmement brutale lorsqu'on voit les images.
C'est d'une violence.
Qui ont été produites et projetées dans beaucoup de journaux.
Je vais même rajouter un dernier point. L'argument a posteriori de dire on a envoyé le centaure parce que les véhicules classiques de la gendarmerie ne peuvent pas rouler dans les chemins boueux.
Oui.
Enfin voilà, dans ces cas-là, taisez-vous. Faites ce que vous avez à faire avec les moyens que vous pouvez avoir, mais taisez-vous, il y a à minima cette décence-là.
Guy Chapoyer, ça vous a beaucoup choqué aussi, ça. Bon, d'autant plus que vous connaissez ce milieu.
J'ai pris la route pour un enterrement à Tarbes. Il me faut 1h40, j'ai mis 3h15. Et j'ai effectivement découvert, non pas l'étendue des dégâts, mais en tout cas le déploiement des forces. Oui, c'est impressionnant. C'est pas un état de guerre, mais c'est très impressionnant. Là aussi, je crois, il faut faire très très attention. Et certains, je crois qu'Ayou l'a dit tout à l'heure, en profitent. Donc, il faut faire très attention. Il faut parler très vite, anticiper, pour éviter effectivement, ben, non pas la débandade, mais la désorganisation et puis aussi l'abandon de tout respect. Moi, personnellement, quand je songe qu'au début du 19e, il y avait 5 millions de fermes, et aujourd'hui, il y en a 400.
Il y avait encore 1,5 million il y a 50 ans. Hein. Moins de 400 000 aujourd'hui.
Eh bien, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a un mécanisme, sans qu'il y ait de complot, mais il y a un mécanisme qui, progressivement, a conduit la paysannerie à disparaître, le monde devant à s'affaiblir. Et on parle toujours des crises, notamment la crise de la vache folle, cette crise ici. Et parfois, je me demande, au fond, si ce n'est pas sur ces moments de crise qu'on essaie de régler des problèmes, de mettre un cataplasme comme ça.
Et le reste du temps, on met ça sous le tapis.
Voilà, un cataplasme sur une verrue ou sur un... J'en sais rien, en tout cas, sur une tumeur. C'est ça, quoi, le problème. Et effectivement, ça peut s'éteindre s'il y a... Et je pense que ça va s'éteindre, hein, parce qu'il y a les élections, enfin, beaucoup de choses comme ça. Mais ça va s'éteindre. Mais... prenons garde et que les politiques, en tout cas ceux qui ont le pouvoir de prendre les initiatives, prennent l'initiative de parler, prennent l'initiative de rencontrer les principaux intéressés, qui d'ailleurs ont peut-être des idées sur la manière d'aborder la question des épizooties. C'est pas impossible. Moi, je ne crois pas au miracle, mais c'est bien de parler, de leur donner confiance, montrer qu'ils sont importants. Ça a été déjà dit, ils sont importants parce qu'ils donnent à manger. C'est eux qui créent la subsistance et la base. Pour les physiocrates, il fallait passer par l'étude de l'agriculture pour comprendre l'industrie. On a abandonné ça il y a longtemps, mais je crois que la base même, l'organisation vitale et sociale, c'est la paysannerie, c'est l'agriculture. Alors si cette base-là, on la fait disparaître en France, c'est quoi? Tout le monde parle de souveraineté alimentaire, mais ça me fait rire, bondir, frémir. Nous ne faisons pas disparaître les paysans, alors qu'on plaide pour la souveraineté alimentaire. Ce qu'il faut faire, en revanche, c'est changer l'orientation de production agricole. Ça, c'est notre histoire.
Ulrich Thierrier, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que bon, c'était choquant quand même ce dispositif déployé à ce moment-là? Est-ce qu'il n'y a pas eu là aussi un gros défaut, j'aime pas le terme pédagogie, mais en tout cas de prise de contact effectivement avec les éleveurs concernés pour ne pas en arriver à ces images qui ont vraiment choqué tout le monde, toute l'opinion publique?
Alors malgré mon soutien que je réaffirme à la ministre de l'Agriculture, qui a été courageuse, qui a tenu des positions dès le premier jour et qui continue à les assumer, j'ai pas été tout à fait d'accord avec tout ce que vous avez dit tout à l'heure. Les préfets ont été directement en lien avec le ministère et la ministre H24. Ils ont été aussi sur le terrain pour accompagner les vétérinaires, pour essayer de mettre tout ça très rapidement en place. Mais lorsqu'on a une épidémie qu'on ne sait pas très bien encore identifier, qui arrive et qu'on doit prendre des décisions qui doivent aller très vite, voilà, on peut comprendre aussi que ce n'est pas simple à acheminer jusqu'au dernier kilomètre, au fin fond de l'Ariège ou dans les territoires ruraux. Et sur le cas des forces blindées et des images qu'on a pu voir, moi aussi, c'est vrai que j'ai pu être choqué parce qu'on parle quand même d'agriculteurs, on ne parle pas de dealers ou de personnes avec qui il y aurait vraiment des problèmes.
Mais c'est ce qu'ont pu dire certains observateurs. On est beaucoup plus prompt à envoyer des centaures, voilà, des véhicules blindés devant les éleveurs que dans certains territoires dits perdus de la République où les narcotrafiquants font un peu ce qu'ils veulent.
Voilà. Mais après, pour aussi nuancer, c'est qu'on a vu... et ça a été dit après, que dans les rassemblements, dans les fermes de l'Ariège, il n'y avait pas que des agriculteurs, il n'y avait pas que des personnes qui étaient là pour les bonnes choses. On avait aussi des gens qui ont profité pour aller semer le chaos. Et je pense que ces gens-là n'aident pas les agriculteurs, ils n'aident pas le monde rural à se relever, à essayer de faire face à cette crise, ces personnes-là, et notamment des élus aussi, du Rassemblement national ou de d'autres partis politiques qui se sont précipités dans les exploitations pour dire qu'ils soutenaient les agriculteurs, alors que sur certains votes, on voit qu'ils ne soutiennent pas du tout les agriculteurs. Et aujourd'hui, je pense effectivement qu'il est nécessaire que la souveraineté alimentaire, et notamment que le ministère de l'Agriculture devienne un ministère très important dans notre architecture de l'État, puisque c'est quand même celui qui nous permet, donc, comme on le disait tout à l'heure, de nous nourrir, et que les agriculteurs ont besoin enfin d'un plan qui soit conséquent pour leur venir en aide et pour qu'on puisse de nouveau pouvoir respirer et arriver à avoir une concurrence et une production française de qualité et qui puisse enfin arriver à apporter au monde rural et aux agriculteurs de quoi vivre correctement.
Oui, Guy Chapouillet.
Je crois que une des erreurs manifestes, c'est ce que je pense, c'est d'avoir fait intervenir les vétérinaires. Vous allez me dire, c'est eux qui ont la compétence pour la vaccination, j'en suis pas sûr. Ils ne sont pas les seuls. Or, les vétérinaires sont ceux qui sont tous les jours avec les paysans et les éleveurs. Et je me demande ce qui va se passer à la fin de cette crise. Comment vont-ils revenir auprès des éleveurs ? C'est la question que je me pose.
Vous croyez que la relation entre éleveurs et vétérinaires puisse en pâtir ?
Les choses peuvent s'oublier, mais tout de même. On aurait dû penser à ça, parce que la vaccination, ça s'en prend très rapidement, c'est possible. En tout cas, ça aurait mérité d'être étudié. Je ne sais pas si cela est possible, mais ça aurait mérité d'être étudié. Par ailleurs, pour ce qui est des personnes qui utilisent la situation, qui se trouvent là avec des fagnons, des mots d'ordre qui n'ont rien à voir avec la situation, mais il y a aussi la fraternité, il y a aussi la solidarité.
Ça, bien sûr.
Notamment en Ariège, où j'ai vu des éleveurs pleurer, des gens vraiment pleurer, et ils se congratulaient, ils étaient pris. Ils étaient derrière les forces de l'ordre, et sans pouvoir intervenir, bien évidemment, ils n'allaient pas sortir des fourches, ça n'avait aucun sens, mais ils n'avaient qu'une seule manière de montrer à quel point ils étaient affectés, c'est de pleurer. Et ça, je crois que ceux qui sont solidaires et qui les aident, c'est quand même aussi très important, il faut les soutenir.
Alors, Guillaume Agulot disait au début de sa première intervention qu'il y a des gens qui profitaient un peu de l'émotion, évidemment, qui est née de cette situation et de ce que vivent concrètement les éleveurs concernés. Et je me posais la question, je ne suis pas le seul d'ailleurs, est-ce que autour de cette crise, de la colère des agriculteurs, ne pourrait pas se greffer autre chose ? Alors, on a vu sur les blocages des routes, des autoroutes par les agriculteurs, il y a une espèce d'union de l'ensemble des syndicats agricoles qui s'est faite, qui paraît un peu improbable, notamment entre la coordination rurale, qu'on dit proche du Rassemblement national, et la Confédération paysanne, beaucoup plus à gauche. Est-ce qu'on peut y discerner les signes d'une possible convergence des luttes à venir entre organisations, syndicats, voire partis marqués très à droite ou très à gauche, susceptible, on ne sait pas, de bloquer tout le pays s'il venait à s'unir au sein d'un vaste mouvement social de contestation générale. Guillaume Agulot.
Ça, c'est une vraie question, parce qu'elle déborde effectivement, en plus, largement le cadre du syndicat paysan. En tout cas, elle va se poser très certainement dans d'autres domaines, au niveau d'autres actions. C'est aujourd'hui, de toute manière, la façon dont le pays fonctionne ou ne fonctionne plus, comme on voudra, c'est exclusivement le rapport de force. Et d'autant plus chez les paysans, chez les agriculteurs qui ont souvent utilisé, on a tous en mémoire depuis les dernières décennies, des préfectures et des sous-préfectures qui ont pu être recouvertes, noyées sous des produits divers et variés issus de la production. J'allais dire, là, chez eux déjà, il ne faut pas grand-chose pour que ça reparte. Le fait de voir un front syndical commun, ou effectivement qui couvre un très très large bord, interroge quand même à deux titres. Premièrement, vous avez cité effectivement les grandes orientations politiques de ces deux syndicats, dont ils ne font eux-mêmes plus mystère, donc c'est même plus la peine de prendre des précautions oratoires pour en parler. En réalité, on regarde que ça recouvre largement, pas exclusivement, mais largement, ce que sont les deux tendances extrêmes de ce pays, à l'extrême droite, à l'extrême gauche. Et voir cette convergence des luttes, aujourd'hui au niveau syndical, mais en réalité également au niveau politique, devrait nous amener à réfléchir sur les temps qui sont en train d'arriver, qui sont devant nous et qui concernent là pour le coup l'intégralité de la société, parce qu'effectivement, si nous avons ces forces dont le seul mot d'ordre et dont la seule mise en œuvre est la contestation, par principe, nature et essence, bien plus que la proposition. Là, effectivement, ce n'est pas forcément des lendemains qui chantent, qui se dessinent. Je voudrais quand même juste dire un mot par rapport aux vétérinaires, qui est une profession aujourd'hui qui, effectivement, peut-être va payer en partie les pots cassés de cette stratégie à retardement du lancement. Je pense qu'effectivement, les vétérinaires, lorsqu'on a eu les premiers foyers d'épidémie, si on les avait envoyés à ce moment-là, parler, discuter avec les éleveurs, peut-être que leur arrivée aujourd'hui dans les endroits où leur présence devient autre que simplement de la pédagogie, mais malheureusement un acte d'euthanasie des bêtes, peut-être que leur présence à ce moment-là aurait été et sera plus tard mieux acceptée. Ça sera effectivement très très difficile et pourtant il va falloir aussi renouer ces liens-là. Et aujourd'hui, c'est une profession dont des membres sont menacés, y compris menacés de mort. Oui. Et là, je suis particulièrement inquiet, et ça se traduit, c'est une des manifestations de plus, mais combien de fois l'a-t-on dénoncé à ce micro, moi le premier, de cette crispation dans le débat aujourd'hui qui fait qu'on ne se parle plus, et qu'on s'insulte, qu'on violente,
et la menace.
Et que se menace, et voilà. L'étape suivante, c'est on se tue.
Oui. Guy Chapouillet, vous, sur un possible débordement de cette crise, pour l'instant, qui concerne le monde agricole, qui pourrait gagner d'autres secteurs de la société, voire la société tout entière, au sein d'une espèce de convergence des luttes de tous les syndicats, de tous les mouvements politiques les plus, si ce n'est les plus extrémistes, les plus radicaux.
Je ne sais pas. J'ai en mémoire que quelques mois avant mai 68, j'étais loin de me douter, je n'étais pas le seul, de ce qui allait se passer. Donc je ne peux rien dire, sinon que tout de même, entre l'extrême droite et l'extrême gauche, il y a tout de même des tensions, ça me paraît assez difficile de les retrouver. Mais là où je suis en désaccord avec Guillaume, un petit peu, c'est que la CONF ne regroupe pas que des gens
d'extrême gauche.
De LFI ou d'extrême gauche, il y en a pas mal, sans doute.
Moi, je
connais des gens
paysanne,
très, très étranges qui viennent de la grande tradition des paysans travailleurs, ceux qui ont fait la guerre du lait en 72, et qui avaient comme mot d'ordre la paix du lait, c'est-à-dire qui avaient le souci de la rémunération de leur travail. Et je me demande si ce souci de la rémunération du travail n'est pas effectivement ce qui réunit. Voilà, je pense que c'est ça. C'est ce qui fait l'unité, qui peut créer l'unité, et qu'on peut retrouver ces gens ensemble pour une revendication, c'est la rémunération du travail. Parce que si on regarde la composition de la marchandise agricole, on ne va pas faire un peu d'analyse marxienne, hein, marxiste, mais la composition de la marchandise agricole nous apprend des choses. La mise en œuvre de quoi ? La mise en œuvre des tracteurs, des engrais, de pas mal de choses. Et au fond du compte, quand vous faites la somme, regardez, il n'y a plus d'argent pour payer. Il n'y a plus d'argent pour payer.
Aujourd'hui, il ne reste plus d'argent.
Ah non, on rembourse les banques, il ne reste pratiquement rien. Il y a des exceptions, hein. Il y a des paysans qui s'en sortent. Aucun problème. Mais de manière générale, c'est ça qui me conduit à penser que la mobilisation autour de la rémunération du travail, c'est ça qui est le...
Donc ce ne serait pas contesté pour contester, il y aurait quelque chose
Les paysans travailleurs avaient jeté ça avec Bernard Lambert à l'époque, avec un superbe livre, les paysans ont eu des classes. Et à ce moment-là, non, c'était assez clair, mais ils se considéraient comme des, non pas des petits paysans, pauvres, je ne sais pas quoi, ils parlaient de prolétarisation des paysans, mais ils ne parlaient pas de prolétarisation de tous les paysans. Ça aussi, c'est un peu compliqué. Mais en ce sens, quand on voit ceux qui sont du côté de la CONF, qui sont du côté de la coordination, je pense qu'il y a quand même une résonance de personnes qui ont à peu près les mêmes problèmes. La terre, ce n'est pas la meilleure qu'ils aient. Ils n'ont peut-être pas assez de surface. Et puis, le prix de revient de leur production est supérieur au prix du marché. Voilà. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il leur reste ? Des dettes pour salaire. Voilà. Des dettes pour salaire. J'aime bien cette formule parce que c'est le titre d'un de mes films qui s'appelle « Des dettes pour salaire » où on constatait qu'au fond, une grande partie des paysans n'avaient pas de quoi manger en dehors de peut-être tuer une poule, avoir un peu de produit de jardin, voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est qu'il faut se méfier, c'est peut-être la revendication économique qui peut créer le lien pour l'instant. Politique, j'y crois pas.
Sur cette question-là d'un possible élargissement de cette crise à d'autres pans de la société, d'autres secteurs.
Eh bien, aujourd'hui, on assiste à une colère qui est profonde, comme on a pu le dire, mais qui est aussi transversale. Ce n'est pas que donc sur la DNC, mais bien plus large. Et cette unité syndicale est avant tout circonstancielle. Voilà, puisqu'elle est liée à une crise précise. Je ne suis pas sûr que sur d'autres sujets, comme les attributions de la PAC, sur le modèle agricole français, sur la manière dont on voit l'avenir, ce soit aussi lié. Et puis également, on avait quand même les élections des chambres d'agriculture il y a moins d'un an, et on a vu quand même des affrontements entre les syndicats agricoles qui prouvent que voilà, il n'y a pas des accords sur tous les sujets non plus, et donc il faut faire très attention aussi avec cette unité qui peut être que passagère.
Qui peut être factice selon vous, enfin en tout cas très très circonstanciel sur un sujet bien précis, mais
oui,
qui ne pourrait pas concerner un ensemble de revendications globales.
Pas factice, mais effectivement sur le sujet de la DNC, on voit qu'aujourd'hui les agriculteurs sont tous d'accord pour dire que... C'est malheureux qu'ils veulent essayer de s'en sortir, d'avoir le moins de vaches tuées possible. Et donc là-dessus, bien sûr qu'il y a une unité. Mais il ne faut pas perdre de vue aussi qu'une union politique ne peut être, je crois aujourd'hui, et d'ailleurs c'est bien aussi pour la démocratie, que ponctuelle et ne peut pas être sur tous les sujets. Et puis pour revenir juste sur un point sur les vétérinaires, si aujourd'hui on a eu du mal aussi à aller rapidement sur les vaccins, sur ce déploiement de la stratégie sanitaire, c'est aussi parce qu'on a un problème avec les vétérinaires qui sont malheureusement peu nombreux en ruralité, de plus en plus éparses, et donc c'est compliqué puisque c'est une maladie de catégorie A, et donc il faut qu'elle soit gérée et administrée donc, par les vétérinaires qui ont du coup du mal à couvrir tout le cheptel français en si peu de temps parce qu'il manque de bras, parce qu'ils ne sont plus assez nombreux.
Les déserts médicaux, ce n'est pas seulement pour les médecins, apparemment.
Voilà, c'est ça. Et donc, j'espère que dans les prochaines années, et notamment le président de la République avait donc arrêté le numerus clausus, que ça va pouvoir faciliter d'avoir plus de médecins, plus de vétérinaires, et qu'on puisse aller plus vite dans les stratégies sanitaires à l'avenir.
Et quadriller tout le territoire.
Pour qu'il y ait plus de vétérinaires, il faut garder les paysans à la terre.
Aussi, oui, ça bien aussi, sûr, bien ouais. Entendu. Bon, en tout cas, la question et la crise n'est pas encore réglée au moment où nous vous parlons, même si on peut espérer que l'épidémie de DNC est maintenant contenue et que la campagne de vaccination va rassurer les éleveurs. Pause dans cette émission avant de prolonger nos échanges autour d'un autre sujet qui n'est pas sans lien avec celui-ci. Vous allez le voir. Retour à l'antenne dans 20 secondes. À tout de suite.
La mêlée de l'info, Éric Dupri.
Nous revoici et je retrouve les trois invités de cette émission, Guillaume Agulot, Guy Chapouillet et Ulrich Terrier. Et je disais il y a quelques instants que le second sujet dont nous allons débattre n'était pas sans lien avec le premier. Et en effet, alors que les agriculteurs manifestent leur colère contre la gestion gouvernementale de la DNC, Emmanuel Macron est confronté au délicat dossier de l'accord commercial de libre-échange que l'Union européenne veut signer avec le Mercosur. Celui-ci étant, comme chacun sait, fort peu favorable aux éleveurs de bovins français. Le chef de l'État a d'ailleurs demandé à la présidente de la Commission européenne un report de l'examen de l'accord. Il estime que le compte n'y est pas pour protéger notre agriculture dans la mesure où les exigences du gouvernement français n'ont pas été entendues jusqu'alors. Est-ce que vous faites confiance à Emmanuel Macron pour défendre les intérêts de notre secteur agricole face à Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne? Et est-ce que vous pensez qu'il faut éviter coûte que coûte de signer cet accord que la plupart des agriculteurs français rejettent, y voyant l'arrêt de mort à court terme de nombreuses filières de production, élevage bovin en tête? Guy Chapouillet, je suis certain que vous avez étudié la question.
Étudier, en tout cas, je ne sais pas si je peux répondre à la question. Faites-vous confiance au président Macron. Je dirais simplement que je le félicite pour ce geste. Je le félicite pour ce geste, c'est un signe de sagesse. Il faut rentrer, me semble-t-il, et c'est le moment, peut-être, après tout, peut-être que cet épisode-ci l'aura permis. C'est le moment de montrer les dents vis-à-vis de l'Europe, vis-à-vis de ceux qui dirigent cette Europe pour des raisons qui nous échappent un petit peu. Je sais que ces raisons sont réelles, sont celles du marché, celles du capital, certes, mais il faut remettre des pendules à l'heure. Parce que si on voit beaucoup de personnes sur les barrages, et là, il y a peut-être quelque chose de particulier, c'est qu'ils sont inquiets devant cette épidémie, mais ils sont encore plus inquiets par le Mercosur. C'est les conversations que j'ai eues avec eux sur les barrages, c'est ça. C'est essentiellement ça. Et c'est pour cette raison que l'inquiétude est aussi bien sur la droite que sur la gauche qu'au centre. Ils sont tous inquiets. Mais est-ce qu'on va pouvoir vendre nos viandes? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va manger par qui? Mais en même temps, comment peut-on mettre sur un pied d'égalité ceux qui ont 72 ou 80 substances interdites en Europe et là-bas, pas du tout interdites? Moi, j'ai fait un film au Brésil, il s'appelle Los Cisaleros, sur la pauvreté. J'ai vu ces grands espaces et les haciendas avec des troupeaux de 1000 têtes, etc. Bon, ça se gère autrement. Il y en a qui tombent, qui meurent, qui passent, mais bon, peu importe. Et donc, c'est un pays vivant, c'est un pays qui en veut, sans doute, mais pas à la condition qu'on est en train de nous imposer, totalement inégale. Et donc, on est fort au détriment des paysans français et des paysans européens, bien évidemment, puisqu'il me semble qu'il y a d'autres paysans qui manifestent au Bruxelles maintenant que des paysans français. Donc, en avant, nous parler de propositions miroirs, c'est-à-dire permettre, par exemple, de faire des analyses pour étudier la composition. Est-ce qu'on retrouve des traces de pesticides?
Apparemment, c'est très compliqué.
C'est extrêmement compliqué. Et en même temps, cette réciprocité est difficile, effectivement, à mettre en place. Extrêmement difficile. Et puis, il n'y a pas que... La réciprocité, ça serait de payer le travail, de payer les tracteurs, de payer... Enfin, bref, de tout payer au Brésil comme on le paie. Et ça n'est pas possible, on le sait très bien. On sait très bien que les conditions de mener les façons culturelles au Brésil n'ont rien à voir avec les conditions que mènent qui sont celles des agriculteurs en France. Donc, je trouve que c'est un piège, ce Mercosur. C'est un grand, très, très grand piège. Je ne sais pas comment on va faire. J'écoutais tout à l'heure Macron à la radio. On disait, mais on ne peut même pas contrôler pratiquement tout ce qui arrive dans les ports. On ne peut pas le contrôler.
Oui, non, c'est infaisable.
Alors, il le dit. Franchement, il le dit. Ça aussi, il a du courage de le dire, mais il fallait jusqu'au bout. Il faut carrément, même si Lula, pour qui j'ai un peu de sympathie, même si Lula considère une espèce de menace, je ne sais pas trop quoi, mais bref, et même si les Allemands nous disent « mais il faut le faire », non, je ne crois pas que c'est le moment de faire très attention à ce qui va nous arriver. Alors on parlait du nombre d'agriculteurs, je crois qu'il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter si on ne veut pas les mettre encore plus en colère. Et puis ce n'est même pas pour essayer d'éviter qu'ils se mettent en colère, c'est pour les entendre et puis aussi pour avoir une politique réelle de la production agricole. Je crois que ça manque, ça. Il y a quelque chose qui manque en France, qui a un projet vraiment de production agricole qui considère que tel produit est nécessaire pour l'intérêt à la fois des Français et en même temps l'intérêt du marché français. Je n'en sais rien, il faut se poser ce qu'il faut. On met ça à table. Je parlais tout à l'heure d'un plan Marshall ou quelque chose d'approchant. Je préfère le terme quelque chose d'approchant parce que plan Marshall, nous
les époques. C'est américain en plus, le plan Marshall.
Mais en même temps, au plan Marshall, je voudrais quand même faire remarquer qu'au moment du plan Marshall, il y a une histoire absolument incroyable qui concerne le cinéma. Et oui. À ce moment-là, nous sont arrivés des États-Unis des films pour nous apprendre à faire des récoltes, pour nous apprendre à travailler en usine, pour nous apprendre... Il y a un film merveilleux qui s'appelle « Le conseiller agricole », ça vient des États-Unis, et qui montre à peu près ce qui s'est passé en France par la suite. Je ne suis pas sûr que le film ait eu cette efficacité, mais le film a été montré aux conseillers agricoles, à ceux qui ont effectivement, sur le terrain, opéré cette transformation souhaitée. Il y a même un film qui s'appelle « Paysan d'hier, paysan d'aujourd'hui ». Je vous conseille de voir ce film. « Paysan d'hier, paysan d'aujourd'hui ». C'est quoi? Ça joue, mais de manière terrible, sur l'opposition des générations. « Paysan d'hier », c'est le vieux, un peu, j'allais dire un gros mot, mais imbécile, et qui n'y comprend rien. Mais « Paysan d'aujourd'hui », c'est le jeune, dynamique, fringant, de la Jacques.
Oui, alors Ulrich Terrier, vous, est-ce que vous faites confiance à Emmanuel Macron pour défendre nos agriculteurs, là? À la Commission européenne face à Ursula von der Leyen, hein, rapport à l'accord tel qu'il est prévu aujourd'hui entre l'Union européenne et le Mercosur. Je rappelle que la plupart des agriculteurs français demandent à ce que l'agriculture soit sortie de cet accord parce que beaucoup le voient comme en gros un échange entre l'agriculture européenne et puis les voitures. Ça serait bon pour les voitures européennes et surtout allemandes et ça condamnerait évidemment notre agriculture, notamment les éleveurs de bovins, en tout cas la partie élevage de bovins.
Oui, tout à fait. Alors moi, je fais bien sûr confiance à Emmanuel Macron parce que les faits sont là. Emmanuel Macron n'est pas resté les bras croisés à attendre que les choses se passent avec les autres pays de l'Union européenne. Il a cherché depuis des mois une minorité de blocage pour essayer que ce texte ne puisse pas passer, non pas parce qu'il ne pourrait pas être bénéfique pour certains secteurs de économique français, mais bien parce que...
Y compris agricole d'ailleurs.
Voilà.
Les viticulteurs par exemple.
Tout à fait. Mais
exactement.
Je pense qu'aujourd'hui, il faut aussi raisonner sur savoir ce qu'on veut. Et ce qu'on veut, c'est pouvoir toujours avoir nos éleveurs, pouvoir toujours avoir de la qualité dans nos assiettes. Et cela passe justement par... tout ce qui est possible pour contrôler et essayer que ce texte n'arrive pas au bout, malheureusement. Il a demandé donc un report de l'examen de l'accord en expliquant clairement que le compte n'y était pas pour protéger nos agriculteurs. La France représente près de 20% de la population bovine européenne et elle ne peut pas accepter un accord qui fragiliserait ses éleveurs. Contrairement à certains discours simplistes, le président mène un vrai rapport de force à Bruxelles. Ursula von der Leyen ne négocie pas toute seule, hein. Elle a également des soutiens de d'autres pays et le président de la République négocie avec eux, fait jouer la force diplomatique, est également allé au Brésil pour rencontrer Lula, pour lui expliquer que en l'état les choses n'étaient pas possibles. Et moi je crois en cette force-là, de la conviction d'arriver par petits pas à ce que l'accord ne soit pas ratifié en l'état et que la France puisse peser dans ces négociations parce que, contrairement à ce que certains voudraient nous dire, la France est puissante, la France a de l'aura à l'international et donc c'est aujourd'hui qu'elle doit le montrer.
Oui, alors petit rappel hein, pour que ce texte d'accord soit voté, il faut qu'il reçoive l'approbation d'au minimum 15 États membres sur les 27 et qui représente moins de 65% de la population de l'Union européenne. Donc en gros, avec 4 États qui représentent 35% de la population européenne, on pourrait faire capoter l'accord. Donc pour l'instant, il y a l'Italie qui a rejoint la France.
C'est un grand pas.
Je sais qu'ils essayent Paris essaye de travailler au corps, si je puis dire, la Hongrie et la Pologne, qui hésitent aussi à voter l'accord. Donc bon, on en est là aujourd'hui. Guillaume Agulot, vous faites confiance à Emmanuel Macron pour défendre notre agriculture ?
Je peux vous répondre en un mot ? Non. Je peux vous argumenter ma réponse, évidemment. D'abord, sur cet accord lui-même. Nous en parlons, évidemment, le sujet du premier débat nous y amène, nous en parlons essentiellement sur le prisme de l'agriculture. Le Mercosur, c'est un accord de libre-échange commercial
qui concerne l'intégralité pas que l'agriculture, bien sûr.
Des échanges
pour commerciaux. Pour ça, je parlais des automobiles, entre autres.
Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, j'admire votre constance à penser que la France continue de peser au niveau international et au niveau européen dans les négociations. Moi, après, je regarde ce qui se passe. Et la fragilisation, y compris interne, hein, dans notre pays, du gouvernement, des gouvernements différents successifs d'Emmanuel Macron, la fragilisation économique, l'isolement de plus en plus marqué dans tous les domaines de la France, y compris diplomatique, a des conséquences. Effectivement, même si ça ne parle pas que d'agriculture, l'agriculture est un sujet majeur. Et je peux vous dire que si effectivement la France avait ce poids-là, vu ce que représente la France dans l'agriculture européenne, si la France, d'il y a quelques années, avec le poids diplomatique qu'elle pouvait avoir dans ces instances-là, avait dit stop, c'était stop. Et on se remettait autour de la table tous pour retravailler. Aujourd'hui, ça n'est plus du tout le cas. Et ça aussi, c'est quelque chose qui doit nous interpeller, nous interroger. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça a été un petit peu évoqué à quelques mots. Pourquoi c'est la Commission européenne qui s'empare de ce sujet-là ?
Oui.
Mais pourquoi ?
Ça, c'est une question,
effectivement. Mais pourquoi ? Au nom de quoi ? En fonction, en vertu de quel mandat ? On est sur un accord que la Commission européenne doit, s'il est approuvé, voté par les représentants des nations, que la Commission européenne doit appliquer. Voilà le mandat de la Commission. Alors quand je vois Ursula von der Leyen, dont je n'oublie pas qu'elle est en plus ou avant ou simultanément, ou on ne sait plus trop, dans ce jeu-là également allemande, quand je la vois à ce point prendre la tête du, on va dire, le camp du bien, hein, face à ceux qui veulent empêcher cette réalisation, ça m'inquiète. Ça m'inquiète pas du tout parce qu'elle est allemande, vous l'avez bien compris. Ça m'inquiète parce qu'elle n'a pas légitimité à le faire. Ça m'inquiète parce qu'une fois de plus, la Commission européenne est en train de sortir de son mandat,
de son rôle, oui.
De son rôle, est en train d'extrapoler son mandat et son rôle, et donc mécaniquement est en train de dépouiller la représentation nationale de chaque pays, des citoyens, au Parlement européen, et au Conseil des ministres européens, de leurs propres prérogatives. Ça, c'est quelque chose, moi, qui m'effraie beaucoup plus. Enfin, le dernier point, ça a été quand même un petit peu évoqué. Nous, là, on a beaucoup parlé forcément de l'élevage. Mais ne croyons pas, surtout, ne soyons pas dupes, il y a des secteurs agricoles en France qui poussent à la signature de cet accord-là, parce que nous sommes dans un monde où il y a de plus en plus de barrières douanières. Bonjour, Monsieur Trump, et regardons ce qui se passe du côté de la Chine. Et que pour les agriculteurs qui ont développé des produits de qualité qui sont sanctionnés par des IGP ou des AOP, des indications géographiques protégées ou des appellations d'origine protégées, ça va être pour eux une énorme bulle d'oxygène, parce que ça va être un énorme débouché qui peut remplacer très rapidement, si l'accord est signé, ce que je ne souhaite absolument pas en l'état. Mais si l'accord est signé rapidement, c'est un fait. Pour ces structures-là de l'agriculture, qui sont des pans conséquents, ça va apporter des choses.
Ce sont les viticulteurs et les producteurs de lait, essentiellement.
Et un tout dernier mot, ça rejoint ce que nous disons depuis tout à l'heure, effectivement, c'est nous sommes pris aujourd'hui dans cette espèce de tenaille entre la nécessité de produire de manière de qualité, qualitative, et la nécessité d'obtenir une indépendance frumentaire, c'est-à-dire une souveraineté alimentaire. On ne peut pas, c'est faux de laisser croire ça à ces micros, on ne peut pas simultanément avoir la souveraineté alimentaire, c'est-à-dire la quantité et la qualité. Il va falloir, et ça, ça a été très bien dit tout à l'heure par Guy Chapouillet, il va falloir décider du soin, de l'orientation que nous souhaitons donner à notre agriculture dans notre pays. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut faire que ça ou que ça, mais il va falloir décider de l'orientation et surtout arrêter de faire croire, et en premier lieu aux paysans qui effectivement n'en peuvent plus d'être in fine les dindons de la farce, si vous me passez cette expression, qui n'en peuvent plus d'être baladés d'un discours à l'autre, où on leur dit parfois dans la même phrase et dans le même discours tout, n'importe quoi, le reste est son contraire. Ça sera soit la quantité, la souveraineté alimentaire, soit la qualité, le développement des IGP et des AOP.
Ulrich Thierry, vous voulez réagir à ce que vient de dire Guillaume Agulot?
Tout à fait. Moi, je veux quand même redire que Emmanuel Macron a bien du poids à l'Union européenne, puisque si l'Italie l'a rejoint récemment, c'est bien parce qu'il est allé chercher les Italiens. Si
ça ne peut pas être sans contrepartie, il faut bien le dire aussi.
Il y a certains pays qui, à la base, n'étaient pas du tout avec nous, nous ont rejoints, c'est bien parce que le président de la République était aux avant-gardes. Et aujourd'hui, si aussi dans cet accord, même si on le ratifierait pas en l'état, des clauses miroirs ont été rajoutées, des clauses de sauvegarde automatiques ont été également rajoutées, c'est bien parce que le président de la République était là. Et puis, comme vous dites, il va falloir choisir notre modèle agricole. On va avoir bientôt la discussion sur la nouvelle PAC pour les agriculteurs. Et donc, la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, est déjà au travail avec Bruxelles pour essayer justement de favoriser un modèle de qualité, un modèle où les petits agriculteurs pourraient avoir des aides qui leur permettraient de survivre et de vivre un minimum. Donc, je pense que voilà, c'est important aussi de dire qu'on essaye et qu'on va y arriver. Parce que en étant trop défaitiste et en étant à tout le temps dire que la France est mauvaise, que la France n'y arrive plus, eh bien, je crois que ça va avoir un effet performatif et qu'on va avoir du mal demain à montrer toujours notre puissance, à arriver à vouloir ce qu'on veut. Et si cet accord aujourd'hui n'est pas ratifié aussi, c'est bien parce qu'on s'est opposé dès le début, parce que sinon, je peux vous le dire, l'accord serait déjà en vigueur et on y verrait les premières conséquences.
Alors, pour revenir à l'Allemagne, je leur dis, hein, ils seraient quand même très gagnants pour leur industrie automobile, donc ce n'est pas tout à fait neutre de préciser qu'Ursula von der Leyen est allemande. Et concernant les clauses miroirs, pour dire de quoi il s'agit, parce que je pense que nos auditeurs, quand ils entendent le terme, oui, qu'est-ce qu'il y a derrière, bah, il s'agirait d'imposer les mêmes normes environnementales aux pays tiers, donc il y a une réciprocité, mais encore faut-il pouvoir les vérifier, vérifier les produits importés. Et ça, on l'a déjà dit, Guy Chapouillet l'a dit, c'est très, très compliqué à mettre en œuvre.
C'est impossible.
Oui, il me semble aussi que c'est impossible. Guy Chapouillet, peut-être que vous vouliez réagir aussi.
Ce qui me trouble dans cette histoire, on a un peu trop intériorisé les lois du marché, comme le nouvel évangile, le nouveau comportement, quelque chose, c'est notre destin. Non, je crois qu'il faut changer tout ça. Parce qu'au fond, on ne met pas en concurrence les entreprises, on les met en concurrence. Mais on met en concurrence, c'est ça le plus grave, les peuples. Et c'est ça qui m'affecte le plus, de voir qu'à travers cette conversation et cette négociation, il y a quoi ? La vie des peuples qui est en jeu. Et d'ailleurs, vous avez des gens d'opinion politique totalement différente. Le Premier ministre espagnol est socialiste, il est absolument pour la liberté totale du marché, etc. Lula, enfin bref, les Allemands. Je trouve qu'on manque, je sais pas, on se laisse avoir par cette vie sans fin des lois du marché qui nous broie. Et ça, c'est... Alors, pour ce qui concerne la réciprocité, ça a déjà été dit. Pour moi, c'est totalement impossible. Mais ce qui me prouve à quel point cette commission a pris des pouvoirs, c'est qu'aujourd'hui, on découvre qu'on va pouvoir utiliser des pesticides sans limite. Alors ça, j'aimerais bien savoir d'où elle sort, cette histoire. J'aimerais bien savoir quels sont les scientifiques qui permettent de nous dire ça aujourd'hui. Moi, je me souviens du lindane, quand j'étais à l'école d'agriculture, on présentait les dangers du lindane. Et il paraît, j'ai vu un article dans Le Monde, il y a à peu près, je crois, l'an dernier, on a retrouvé encore des traces réelles de lindane en se demandant il n'y en avait pas des restes de lindane dans les produits utilisés. Puis il fallait épuiser les stocks, peut-être. Non, mais je n'en reviens pas. Le glyphosate, là, il est autorisé jusqu'en 2033, c'est ça?
Oui, ça a été prolongé.
Il peut être considéré comme totalement accepté, toléré et désormais désigné à vivre pour l'éternité, de manière illimitée. Où est-ce qu'on est? Qui a décidé cela? Guillaume, tu l'as dit très précisément, mais il faut en finir avec cet exercice abusif du pouvoir. Je sais, paraît-il, que ça permettra des économies, paraît-il. Mais la vie n'a pas de prix. Je crois qu'on ne peut pas parler d'économie si c'est justement pour sauver des animaux, pour sauver des personnes, pour sauver la nature et la qualité de la terre. Enfin, c'est ça qui prime le plus. On ne doit pas se considérer qu'on va 420 millions, je ne sais pas quoi, ça permet d'économiser telle activité administrative. Ça, je ne veux pas l'entendre, moi. Ce que je veux entendre, c'est que qu'est-ce qu'on met en place pour qu'une agriculture nourrisse, tout en prenant soin de la santé des personnes, de la terre et des animaux. C'est ça qui m'intéresse. On en est là aujourd'hui. Réagissons quand même. Quelle société on veut, quel avenir on veut. C'est tout.
Oui, malheureusement, on a bien compris que tout le monde n'était pas complètement d'accord là-dessus. Alors, je voulais
Oui, mais c'est ça, on voit bien la division dans le camp des producteurs. Tout à l'heure, ça a été dit très, très précisément. Il faut y revenir sans doute.
Il y a une dizaine de milliers d'agriculteurs qui ont manifesté aujourd'hui devant le Parlement européen à Bruxelles, alors que le Conseil européen était réuni pour cette signature de l'accord avec le Mercosur. Bon, il y a eu quelques débordements, il y a eu des jets de pierre, des feux d'artifice. Bon, tout ça, qu'est-ce que ça va donner? On ne sait pas trop. C'est la fin de cette 213e mêlée de l'info. Merci beaucoup à vous trois d'y avoir participé. Merci aussi à Coraline Camebrac qui a réalisé cette émission. Le podcast est disponible et téléchargeable dès maintenant, comme d'habitude, sur le site web de Radio Présence. Je remercie pour finir ceux et celles qui nous ont écoutés aujourd'hui. Joyeux Noël et bonne fête à tous. À bientôt.
Merci. We'll be right back.